23 octobre 2016, le conseil de ville de la ville de Sherbrooke s'est réuni. Nous avons pour nous en parler le maire Bernard Sévigné, évidemment le sujet de la semaine, un incontournable, le fameux Well Inc., alors la Wellington Sud. Le projet a été présenté lundi et mardi aussi au cours du souper du maire avec la Chambre de commerce de Sherbrooke. Donc un projet dans lequel on veut démolir certains bâtiments sur la Wellington Sud et revitaliser tout ça en en faisant vraiment un centre entrepreneurial. Je lis ici une petite citation prise dans un journal du coin. Nous implanterons la maison du développement économique qui regroupera Sherbrooke Innopole, Commerce Sherbrooke, Progestion Estrie et le Centre de développement économique et communautaire dans ce nouveau quartier. Il y aura d'autres partenaires qui annonceront bientôt des projets sur Wellington Sud. Nous en ferons un lieu où les entrepreneurs trouveront tous les services adaptés à leurs besoins. C'est ce que vous avez vous-même expliqué. En prenant déjà ceux qui sont cités là et ceux qui se sont présentés lors du souper du maire, ce qu'on remarque, c'est que là-dedans, il y a effectivement pour l'instant, en tout cas, pas beaucoup de privés. Des partenaires comme Sherbrooke Innopole, Progestion, qui sont des partenaires publics et dont les subventions gouvernementales ont été passablement coupées au cours des dernières années. Est-ce qu'il va y avoir une ouverture au privé, une collaboration au privé, si on parle d'entrepreneuriat là?
Oui, et forcément, les entrepreneurs sont des entrepreneurs privés. Donc, ils font partie de la solution, puis ils vont meubler, en quelque sorte, les installations qu'on est en train ou qu'on planifie. Et il y a des entreprises privées qui ont leur propre projet, qui vont s'installer sur la rue Wellington Sud, mais il faut faire attention. Il y a privé, oui, il y a public, mais en même temps, il y a des organismes qui... je prends par exemple Sporobol, qui est un organisme culturel, le Conseil régional de la culture, qui est un organisme culturel aussi, il y a une vocation régionale. Ce sont des organisations qui, financièrement, sont bien établies, sont propriétaires de leur propre bâtiment. Donc, et c'est un peu comme le réseau de la santé, le CIUS, on comprend, c'est public, mais en même temps, ils sont dans une réorganisation complète des services dans toute la région. Et c'est une occasion de repenser comment tel service pourrait être implanté sur le territoire. Ils sont en train de faire ça. Puis évidemment, ça coûte de l'argent, ça fait partie de la réorganisation de la santé. Et nous, on saisit l'occasion pour dire, mais regardez, est-ce que vous pouvez tel service le mettre au profit d'Espace Inc.? Donc, oui, c'est des fonds publics qui ne sont pas nécessairement municipaux, cela dit. L'objectif, évidemment, vous savez, l'appétit vient en mangeant à partir du moment où la ville donne le coup d'envoi, donne l'impulsion. Ils vont suivre. Et dans les cartons, il y a des projets d'entreprises privées là, qui sont prévus.
Le 4 millions qui a été annoncé pour l'achat de certains bâtiments là, sur la Wellington Sud, ça, c'est un investissement de départ, évidemment, parce qu'après ça, on parle de démolition et de reconstruction. Ça, là-dessus, j'ai pas vu de budget annoncé là, pour l'instant, en fait, de reconstruction. Est-ce qu'on a déjà une idée de combien on veut mettre et de l'ouverture pour les partenariats, j'imagine, avec les autres paliers de gouvernement, là?
Mais en fait, c'est une vision qu'on a présentée et non un plan d'affaires sur 10 ans. Je pense qu'il y a une nuance là, que les gens vont devoir saisir. Oui, on a une idée, le stationnement, dans son état actuel, il faut le démolir d'ici 3 ans. Il y a une question de sécurité. Oui, on a investi déjà de l'argent en 2011, mais la structure dans laquelle on investit, on peut la décrocher. Là. En fait, c'est une structure en fer qui a été pour l'esthétisme du stationnement. Donc, il faut le démolir et le reconstruire. Ça coûte 5 millions. On le sait, c'est déjà budgétisé dans le plan triennal d'immobilisation. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir le stationnement et on sait que ça va coûter entre 12 et 15 millions. Donc, c'est environ entre 25 000 et 30 000 $ la case de stationnement. Il va y avoir 500 cases de stationnement. Ça, c'est un coût qu'on sait. Sur les stationnements, on va lever 2 bâtiments. Bon, les bâtiments, oui, il va y en avoir un qui va être en partie municipal, mais comme Progestion est propriétaire de son bâtiment, il y a d'autres partenaires. Il va y avoir un montage financier qui va être fait pour voir quelle est la part de qui dans ce bâtiment-là. Et on s'attend à ce que le fédéral participe au financement et que le provincial également. Donc, un projet qui va être soumis aux 2 autres paliers de gouvernement dans les stratégies d'innovation.
Je rebondis juste, je sais que la réponse n'est pas tout à fait finie, mais en même temps, je veux rebondir sur ce que vous venez de dire. La Progestion, effectivement, est actuellement propriétaire d'un bâtiment ici même sur la Wellington Nord, l'ancienne banque, un bâtiment magnifique. Ce serait quand même malheureux que ce bâtiment-là devienne une coquille vide, un peu comme on a aux 2 rues Wellington Nord, là, directement sur le coin de la King, un bâtiment qui est inhabité, inutilisé depuis plusieurs années. On va fêter les 10 ans, je crois, là, d'inoccupation bientôt. J'espère qu'on n'est pas en train de créer quelque chose, de déplacer un problème finalement là.
Non, il ne faut pas comparer les raisins et les melons. Là. Monsieur Papadimitriou, qui est propriétaire, ça fait 10 ans. C'est un propriétaire qui, manifestement, ne veut pas développer son bâtiment. Là. C'est après 10 ans, là, il y avait des intentions. Je pense que... Alors que Progestion, c'est un partenaire, il y a son bâtiment. Et à partir du moment, ça s'inscrit dans un projet de revitalisation où il va y avoir des investissements massifs de la part de tous les partenaires. On l'a vu. Je pense qu'on l'a vu hier. C'est assez évident que l'Université de Sherbrooke va avoir pignon sur rue. Les trois collèges se mettent ensemble pour pouvoir se donner des installations. Évidemment, l'appétit vient en mangeant et ce bâtiment-là ne restera pas vide longtemps. Et de toute façon, ça appartient à Progestion Estrie. La ville n'a pas un mot à dire là-dedans. C'est pas notre...
Mais j'imagine que la ville, ça, vous n'avez pas un mot à dire sur la vente comme telle ou ce qu'ils vont faire avec le bâtiment. Mais en même temps, si eux autres cherchent à le vendre, j'imagine que la ville a un intérêt à être sûre d'avoir un acheteur qui va faire de quoi avec ça parce que vous cherchez à revitaliser le centre-ville.
Non, arrêtez de mettre la responsabilité sur la ville. La ville n'a pas, ça ne nous appartient pas, ça ne nous appartiendra pas, on ne l'achètera pas. Progestion va se trouver un acheteur, et nous, on pense que le bâtiment pourrait être, et ça leur appartient, c'est eux qui vont gérer ça. Donc, nous, on pense qu'ils vont être en mesure de le vendre, le bâtiment, dans la mesure où il y a un projet de revitalisation au centre-ville qui va attirer des investisseurs. Il y a des gens qui vont se positionner sur Wellington Nord, sur Wellington Sud, et je pense que ça va faciliter l'acquisition par un tiers. Écoutez, c'est pas un dossier que je veux gérer et c'est surtout un dossier que je ne gérerai pas. Ça appartient à Progestion Estrie.
Dans les autres bâtiments qui sont impliqués là-dedans, quand on parle de déplacer Sherbrooke-Innopole, on parle aussi justement d'un bâtiment qui, là, cette fois-ci, appartient à la ville dans le domaine Howard. Très beau bâtiment, d'ailleurs, qui doit coûter passablement cher à entretenir et dans lequel on ne peut pas mettre n'importe quoi parce que, évidemment, ça a déjà une vocation qui est bien... C'est du bureau et ça ne pourrait pas être grand-chose d'autre. On ne mettrait pas une maison de jeunes là-dedans, sûrement pas. Est-ce qu'on a déjà réfléchi, pensé à travers ce projet-là à ce qui va arriver au domaine Howard?
On a quelques scénarios dont je ne vous parlerai pas. On a 2 ans pour se retourner de bord. Parce que...
Même pas l'ombre d'un scoop, là.
Le domaine Howard, ça a été cédé par la famille Howard à la ville de Sherbrooke. Donc, il y a une obligation de conservation. L'usage, on verra. On a 2 ans pour réfléchir et voir comment les choses vont se passer. Et on sait que, évidemment, en disant que Sherbrooke-Innopole, dans 2 ans, va déménager au centre-ville, on sait qu'incidemment, il y a des décisions qu'on va devoir prendre pour le domaine Howard. Et ça, écoutez, ça sera discuté au conseil municipal.
En regardant le plan qui a été fourni par la ville, évidemment, tout ça vient chercher la rue des Grandes Fourches. Et veut pas, on peut juste penser aussi à cette espèce de grand stationnement qui sert à rien en arrière du Maxi. Il y a le stationnement en avant du Maxi qui est évidemment utilisé par les consommateurs, mais en arrière, il y a un grand espace asphalté qui sert absolument à rien. Et je me posais la question, à qui ça appartient, ça? Et est-ce que la ville a, à travers toute sa réflexion, pensé qu'il y aurait peut-être là quelque chose à faire, puisqu'on crée 500 cases de stationnement et qui semble y avoir déjà quelque chose qui est là et qui est totalement inutilisé, là?
Non, ce sont des propriétés privées. Puis, il n'y a pas d'intention, on est en zone inondable. Là. Il faut savoir que ces terrains-là sont en zone inondable. Nous, on a ce qu'il faut pour pouvoir aménager des stationnements. Il y a déjà une pression sur les locataires, les gens qui travaillent au centre-ville, qui vivent au centre-ville. Il y a déjà une pression, il manque de stationnement au centre-ville. Donc, évidemment, il faut augmenter le nombre de cases. Puis, tout ça va être intégré. C'est un stationnement qu'on ne verra pas, donc qui va être intérieur et qui... et s'il y a un besoin de stationnement additionnel, on a encore des propriétés municipales le long de la voie ferrée, donc entre le centre de production des arts de la Seine et la voie ferrée, et éventuellement entre le centre de diffusion intermédiaire qui, lui, va être aménagé en bordure de Wellington Sud. Donc, en arrière, il y a des espaces-là qui vont être utilisés s'il y a une trop forte pression sur la demande en stationnement.
Vous le disiez, il y a un manque de cases, un manque de stationnement au centre-ville. En même temps, on veut faire un virage à Sherbrooke et on a des aspirations vraiment nommées de développement de moyens de transport alternatifs. Est-ce qu'au final, à chaque fois qu'il manque un stationnement quelque part, si la solution c'est juste de l'agrandir, est-ce qu'on n'est pas en train de faciliter la vie des voitures et de jamais, d'une certaine manière, imposer ce virage vers le transport alternatif, là, parce que ça ne se fera pas tout seul. Tant et aussi longtemps qu'on peut se servir notre voiture facilement, on ne prendra pas l'autobus.
Non, je pense qu'il faut être pragmatique, là. L'objectif, c'est d'amener des centaines et des centaines de travailleurs, des dizaines d'entreprises au centre-ville, sur le tronçon en question. On peut bien, dans notre modèle d'affaires, leur dire « venez à bicyclette, venez en autobus et venez à pied ». Je pense que la réalité, là, c'est qu'on va se promener en voiture dans les 50 prochaines années. J'y serai plus et vous non plus, probablement. Ça, c'est la réalité. Est-ce que dans le processus, il faut mettre l'accent? Oui, on va continuer de faciliter ces accès-là à partir du transport en commun, le transport actif. On a un plan de mobilité durable qui va se déployer encore pour les 12 prochaines années. Donc, il y a des actions à poser. Mais en attendant, c'est pas en contraignant, en obligeant, parce que la réalité commande, qui est un minimum de cases de stationnement. Ça ne veut pas dire d'en faire autant qu'on en aurait fait il y a 20 ans. Et ça, effectivement, il y en a beaucoup moins.
Combien on aurait fait il y a 20 ans, vous pensez?
Je n'ai pas de chiffre à vous offrir, mais il y a une réalité, il y a des programmes qu'on a tentés et on va revenir avec d'autres types de programmes. Quand on demande aux gens qui travaillent au centre-ville, on leur payait presque la part d'autobus gratuit là, pour qu'ils viennent. Je pense qu'il y en a trois qui se sont prévalus d'un programme qu'on a mis sur pied il y a à peu près 3 ou 4 ans. Ça ne fonctionne pas. On a fait une promotion chez tous les employeurs du centre-ville, donc il y a autre chose à faire. Je n'ai pas la solution, et dans le meilleur des mondes, ce serait bien qu'effectivement les gens adoptent. Mais petit à petit, ça fait partie des saines habitudes de vie et de la sensibilité environnementale. Mais en attendant, on a besoin de cases de stationnement.
On annonce ça aujourd'hui. On sait que les élections sont dans un an. Le prochain conseil sera souverain. Évidemment, là, il y a toutes sortes de partenaires qui sont là autour de la table. Est-ce qu'on a des engagements signés? Ou si dans un an, prochaine élection, admettons le fait où vous perdez, et puis qu'il y a peu de représentants du Renouveau Sherbrookeois qui sont là autour de la table, est-ce que le projet risque de tomber à l'eau, tout simplement? Est-ce que ça crée une certaine insécurité pour les partenaires éventuels?
Non, du tout. Vous savez, nous, on pense qu'il va se passer des choses en 2017. D'abord, on va démolir les 5 bâtiments qu'on va avoir acquis et on va démolir le stationnement. Donc, on part de là et on veut commencer à travailler à la fin 2017, début 2018. Puis, vous savez, il faut prendre, s'il fallait attendre, à chaque fois, on va attendre les élections pour ce qui passe de quoi, il ne se passera jamais rien. De toute façon, depuis 30 ans, il ne se passe jamais rien sur Wellington Sud. Il faut y aller, il faut se promener pour comprendre de quoi on parle. C'est le cœur de la ville, là, qui est, donc, il y a un coup de barre à donner. Le coup de barre se donne, ça a été préparé depuis un an et demi. On n'a pas commencé avant hier à parler aux partenaires pour que l'université annonce des projets, pour que le CIUS annonce des projets. C'est parce que ça fait un petit bout de temps qu'on en discute. Donc, je pense que c'est parti, le projet est parti. Et si jamais il y a un autre maire ou un autre mairesse, bien, ils prendront les décisions. Nous, on se projette dans le temps. On a un projet d'une dizaine d'années. Et s'il y a des modifications, il y en aura. Ça sera le choix des électeurs.
Adjudication du contrat dans le cadre de l'appel d'offres 2016-009 pour l'acquisition et la mise en place d'une solution corporative de gestion de la maintenance assistée par un ordinateur. Et je croyais que c'était quelque chose qu'on avait déjà ici à Sherbrooke, qu'une solution corporative de gestion, on parle d'un logiciel ici là, qui va finalement s'assurer de la gestion de la maintenance. On n'avait pas ça encore?
Non. Et les villes commencent à se doter, et ailleurs, c'est pas mieux, là. Si vous pensez que, vous savez, il y a une fusion municipale il y a 14 ans, il y a eu des bâtiments, c'est 8 villes regroupées, des bâtiments, des véhicules, évidemment, et ça gérait, il y avait des systèmes différents. Et là, on donne un seul et même système. En fait, on a un millier d'unités. Là, il y a 750 véhicules, on a 250 bâtiments, on a 17 centrales hydroélectriques. Puis évidemment, c'est un patrimoine de 608 millions qu'on gère à la ville de Sherbrooke. Et là on va se donner des outils pour pouvoir gérer. Gérer, ça veut dire quoi? C'est de faire davantage de prévention sur les bâtiments, sur les véhicules. On va se donner une façon efficace de maintenir ce patrimoine-là et d'éviter pour des raisons de temps, pour des choix, qu'on fait sans avoir l'ensemble des informations, qu'on peut se remettre en question ce patrimoine-là qui appartient à la ville. Donc, c'est des nouveaux outils qui apparaissent. Il y a quelques villes qui se sont dotées d'outils de gestion de leur parc immobilier, leur flotte, etc. Et c'est ce qu'on fait. Donc, on dépense 1,5 million pour l'implantation d'une solution Maximo d'IBM, donc qui est solide et qui existe ailleurs. Et c'est un contrat de 5 ans sur le support, la maintenance de ce système-là. Et ça va nous permettre de mieux gérer notre parc de bâtiments et de véhicules et de centrales hydroélectriques.
Société de transport de Sherbrooke, pour terminer, il y a eu lundi soir le dépôt de la révision du plan stratégique de développement du transport en commun 2013-2022, annexe 1. Est-ce qu'on a une révision qui change grand-chose à ce qui avait déjà été présenté ou si au final, là, c'est plus une petite virgule dans le truc, là?
Bien, c'est plus qu'une virgule, c'est des ajustements. Ça fait déjà 3 ans que ce plan d'action-là a été adopté sous une obligation légale. Maintenant, depuis 3 ans, les résultats attendus, il y a certaines mesures qui... en tout cas, il y a certains paramètres qui sont un peu plus difficiles. Par exemple, l'achalandage a diminué de 1 %. Donc, est-ce que c'est catastrophique? Non. Est-ce qu'il y a lieu de réviser un certain nombre d'actions? Oui. Alors, le nouveau plan fait en sorte qu'il va y avoir des actions davantage. Vous savez, la difficulté, c'est de stimuler la demande. Et maintenant, il y a des projets qui s'en viennent à la STS, des projets de mobilité, donc avec les iPhones, on va être un peu plus dans le virtuel. Il y a des choses qui s'en viennent dans les prochaines semaines là, qui vont être annoncées par la STS. Donc, c'est un virage qu'on veut prendre un peu plus rapidement de façon non seulement à rattraper cette perte d'achalandage-là, mais à en générer de l'achalandage supplémentaire. Et c'est ça le défi de la STS. On a des bonnes performances. On veut aller plus loin, alors on est plus dans l'ordre des ajustements, mais c'est plus qu'une virgule.
Bernard Sévigny, maire de Sherbrooke, merci bien pour cette entrevue. On se retrouve dans quelques semaines. Quant à vous, chers auditeurs, je vous invite à faire circuler l'entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.